Alors, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans l'Épître de Jacques. Cette semaine, quand on rentre dans Jacques, chapitre 2, verset 14, on rentre vraiment dans le centre de la confrontation dans Jacques. Et j'aime bien dire toujours comme quoi que la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle. Intéressant de voir que quand on parle de la parole de Dieu, le mot « Bible » a peu de signification. On emploie même le mot « Bible » à toutes les sauces. Hein, et la Bible, il s'appelle Jacques Duval, il appelait son livre des autos de l'année, la Bible des autos. Donc le mot Bible est utilisé à toutes les sauces. Même où je travaillais avant, on avait la Bible du photographe, la Bible de ci, la Bible. Tu sais, c'est un mot. Tandis que la parole de Dieu n'est pas employée à toutes les sauces. Ou Dieu qui nous parle. J'aime beaucoup ça. Alors, lisons ensemble dans Jacques chapitre 2, verset 14.
Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Ce que nous faisons révèle qui nous sommes. Je répète, ce que nous faisons révèle qui nous sommes. Si je dis que je suis quelqu'un de travaillant, mais que ça fait 40 ans que je reste assis, comme on dit au Québec, sur mon steak et que je fais rien, ce que je fais révèle qui je suis. J'ai bien beau dire que je suis travaillant, ce que je fais ne montre pas que je suis travaillant. J'ai beau dire que je suis paresseux, mais si je me lève tous les matins pour aller travailler, rentrer ce qui est nécessaire de provision pour ma famille, bien que je sois paresseux, mes actions montrent que quand même je me soigne. Comme mon père dit souvent ça, je suis un paresseux qui se soigne. Donc, nos actions ou ce que nous faisons révèle ce que nous sommes. Celui qui professe Christ, qui ne même pas honore Christ par une vie d'obéissance, est un imposteur. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations tes disciples. » Avant qu'on arrive là, merci Richard, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Quelqu'un qui suit une certaine discipline, qui a un maître. Quand j'ai un maître, j'ai une discipline. Nous avons des enfants, est-ce que tous nos enfants sont faciles à discipliner? Non. Il y en a qui sont plus faciles entre 0 et 6 ans, puis après, ça devient difficile. Il y en a d'autres, ça va très bien jusqu'à 17, 18 ans, puis après, ils sacrent le camp de la maison, puis aucune discipline. Nos enfants sont différents, comme nous sommes différents aussi, mais tout le monde doit acquérir une discipline pour être un disciple. Et cette discipline, allez, faites de toutes les nations des disciples, les enseignants au nom du Père, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ou à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Le disciple est baptisé et obéit tout ce que le Seigneur nous donne. Donc, c'est intéressant de voir tout cela. Est-ce qu'il y en a qui en arrachent plus que d'autres? Définitivement. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne font rien du tout? Non. Même si on arrache, même si c'est difficile, même si on a le cou raide, on reste un disciple parce qu'on obéit, ou le maître prend le temps de faire obéir ses enfants. D'accord? On va développer ça un petit peu ce matin. Le verset 17 et le verset 26 nous dit qu'une telle foi sans œuvre est morte. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'un mort? À rien pantoute, OK? Un coup qu'on est mort, on ne peut rien demander aux morts. La seule chose qu'on tire d'un mort, ça nous coûte 10 000 piastres pour l'enterrer. C'est à peu près tout. À part que s'il a un héritage, on a l'héritage. Mais il n'y a rien à faire avec la personne comme telle, elle est morte. Si la foi est comme telle, il n'y a rien à tirer non plus. Le Nouveau Testament est rempli d'exemples de ce genre de foi. Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait, c'est dans Matthieu chapitre 3, plusieurs pharisiens et sadducéens venaient au baptême pour se faire baptiser du baptême de repentance de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste voyait leurs actions, il les traite de race de vipères. Vous êtes croches, vous êtes hypocrites. Ne prétendez pas que vous avez Abraham pour père, car il dit, avec ces pierres-là, on peut susciter des enfants à Abraham. Vous êtes une bande d'hypocrites, qu'il dit. Donc, votre repentance n'est pas réelle. Une repentance demande un changement. Jean-Baptiste, chapitre 3, versets 7 à 9. Par son langage, ils manifestent ainsi que leur foi ou repentance était morte. Matthieu, chapitre 5, 6, dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit, « Afin qu'ils voient, quoi, vos bonnes œuvres. » Il y a une connexion toujours entre les actions, la foi et les bonnes œuvres. Puis la lumière intérieure va faire briller, une lumière intérieure, la foi, va briller d'une manière extérieure. C'est comme les fréquentations. Quand on est un jeune homme, là, je vais parler pour moi, mais j'ai commencé à fréquenter ma femme, j'avais 17 ans, donc elle avait 16 ans. Ça veut dire que quand j'ai rencontré ma femme et commencé à fréquenter ma femme, que je l'ai demandé en mariage, j'avais 18 ans, donc elle avait 17 ans, quelle était mon attitude par rapport aux autres jeunes filles? J'avais une préférence. Est-ce que c'est suffisant? J'avais une préférence. J'avais une exclusivité. Je n'avais Dieu que pour ma femme. Je pense que je suis un homme normal. La plus belle création que Dieu a faite, c'est la femme. Bon. Mais quand même, j'avais une exclusivité. Celle sur qui je portais mes regards, c'est ma femme. Mes actions devaient aller en fonction de cela. L'intérieur, l'amour que je lui portais, devait se voir des autres. J'étais assis avec elle, etc., etc., et vice-versa. Donc, c'est toujours la foi, c'est la même chose. Ce n'est pas qu'intérieur. L'extérieur doit aller avec l'intérieur. Il y a d'autres exemples encore. On voit que Matthieu 7, verset 16 à 20, il dit, « C'est donc à leurs fruits que vous reconnaîtrez ceux qui ont la foi. » Jean 15, 5 à 8, il nous dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. » Matthieu 13, 23, la parabole des terrains. On reconnaît celui, la bonne graine qui a planté, comment? Parce qu'elle a germé? À cause du fruit qu'il va porter, un 100, un 60, un autre 30. Pas parce qu'elle a germé, parce qu'il y a combien de terrains qui germent? 3 terrains. Est-ce que les 3 terrains dont la graine germe représentent 3 terrains où la personne est sauvée? Non, il n'y a qu'un terrain. Lequel? Celui qui grandit et qui porte du fruit. C'est aussi simple que ça. Donc l'importance de la foi et de porter du fruit n'est pas seulement dans Jacques. Elle est dans toute la parole de Dieu. Et même Jacques cite Abraham et Rahab. C'est intéressant de voir pourquoi il cite Abraham et Rahab. Il cite Abraham qui est le patriarche, le père des Hébreux, un juif, un valet juif, le premier si on veut dire. Et Rahab qui est non-juive, prostituée, femme de mauvaise vie, tout ça, et qui est l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Intéressant de voir cela. Il va chercher les deux peuples, à la fois les juifs, les Hébreux, à la fois les païens ou les non-juifs. J'aimerais vous faire une petite lecture de M. MacArthur. Comme à bien d'autres époques de son histoire, l'Église a aujourd'hui désespérément besoin de reconnaître et de dénoncer l'idée diabolique selon laquelle le simple acquiescement aux faits relatifs à l'Évangile suffit pour être sauvé. Je fais une petite parenthèse. J'ai entendu souvent un Évangile à l'eau de rose. Viens à Jésus, demande-lui pardon pour tes péchés et il va régler tous tes problèmes. La différence, c'est que quand on vient à Jésus-Christ, qu'on lui confie nos péchés, qu'on lui demande pardon, qu'il prend place dans nos vies, est-ce qu'il règle tous nos problèmes? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne. Il règle un problème grave, la condamnation du péché pour l'éternité. Est-ce qu'il règle les problèmes que j'ai pas une job, que ça va mal avec ma femme, etc., etc.? Pas nécessairement. Même, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Si vous venez à moi, mais il a dit d'une manière pratique. Il a dit, qu'est-ce qui arrive? Voilà. J'ai pas une place, j'ai pas un oreiller où mettre ma tête. J'ai été maltraité. Vous serez maltraité. Donc, ce qu'il leur dit, si vous venez à moi, ça va être pire qu'avant. C'est ça qu'il dit. Donc, ça, c'est un évangile à l'eau de rose. Oui, le Seigneur nous aide dans nos difficultés parce qu'il place dans notre cœur, quoi? Son esprit qui nous conseille, qui nous dirige, qui place en nous le fruit de l'esprit et qui fait que face aux problèmes, notre vision est complètement différente. Sans Dieu, sans Christ dans nos vies, nous voyons et nous marchons de jour en jour et nous voyons les problèmes comme étant une finalité en soi et on s'arrache les cheveux et on dort plus. Tandis que quand notre espérance est en Christ, elle est éternelle, quoi qu'il arrive sur le chemin qui nous mène à l'éternité, le meilleur est à venir. Ça n'ira pas en s'améliorant. Physiquement, ça n'ira pas en s'améliorant. Ça va aller en se détériorant. Et c'est ça qu'on appelle la mort du corps. Et tranquillement, ben, on a plus de bobos. J'ai fendu du bois hier, puis j'ai mal dans le dos. J'ai fendu 6 bûches de bois. C'est tout. Puis j'ai mal dans le dos. Avant, j'aurais fait ça pendant une journée complète. Ça, c'est la vieillesse, la vieillerie, hein? Voilà. OK, je continue. Selon laquelle le simple acquiescement aux faits relatifs à l'Évangile suffit pour être sauvé. Il nous faut clairement et résolument contrer la tromperie et l'illusion selon laquelle connaître et accepter la vérité sur Jésus-Christ signifie avoir la foi qui sauve. Dans certains milieux, il semble même qu'on pense que le simple fait de ne pas nier l'existence équivaut à croire en lui. De plus en plus de religions chrétiennes, christianisme, tous ceux qui ont, soi-disant, Jésus-Christ comme sauveur. J'inclus le catholicisme, tout ça. J'écoutais une émission à la radio, j'étais sur la route, où ils interviewaient un prêtre très connu à Montréal. Bon, alors j'ai oublié son nom, là. Qui ne croit même pas en Dieu. Il a la foi en les hommes, en l'homme. Moi, la seule chose, je suis pas encore bien, bien vieux, mais en 64 ans, la seule chose que je vois, c'est que les hommes ne se sont pas améliorés sur la terre en 64 ans. Il y a plus de guerres, tranquillement. Il y a plus en plus de gens qui meurent de faim, etc. C'est toujours un plus, pour un moins, pour l'homme. L'homme, la parole de Dieu nous dit que l'homme est foncièrement mauvais, pécheur. Même le cœur est tortueux. Voilà. OK, je continue. Jacques ne permet pas qu'une telle erreur passe sans protester. Comme nous l'avons plusieurs fois fait remarquer dans les chapitres précédents de ce commentaire, l'épître de Jacques présente une série d'épreuves au moyen desquelles, et on va les voir, ceux qui se disent chrétiens peuvent évaluer la véracité de leur foi. On ne peut trop insister sur le fait que nul ne peut être sauvé par les œuvres. Passons pas d'un extrême en disant que la foi sans les œuvres est morte. C'est ça que Jacques veut nous enseigner. Donc moi, je vais te montrer mes œuvres qui vont me sauver, mais toi, tu vas me montrer une foi qui ne fait rien. C'est pas ça que Jacques dit du tout. On continue. Le salut est entièrement par grâce. Nous ne méritons qu'une chose, l'enfer, la condamnation à cause de notre péché, parce que je suis un pécheur, tu es un pécheur depuis Adam et Ève. Et l'homme, l'être humain, l'espèce humaine ne mérite qu'une chose, la condamnation de l'enfer pour son péché, la rébellion avec Dieu. Donc le salut est entièrement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don. C'est le don de Dieu, Éphésiens 2, 8 et 9. Et ça continue. « Ce n'est point par les œuvres, afin qu'on ne se pète pas les bretelles, qu'on ne se glorifie pas et qu'on ne s'enorgueillit pas, j'ai gagné mon ciel. » C'est la première erreur qui est rentrée dans l'Église. En quel siècle est-ce que c'est rentré, cette erreur-là? Le salut par les œuvres. Je parle au début de l'Église, après que l'Église a été instituée par Jésus-Christ, par les apôtres, là. Au deuxième siècle, c'est, mettons 200 ans après la naissance de Jésus-Christ, déjà cette doctrine était enseignée du salut par les œuvres. Ça nous prend pas beaucoup de temps à nous égarer de ce que Dieu enseigne. Donc c'est pour ça que c'est important, cette doctrine, de bien, entre guillemets, la maîtriser. Okay? Si les œuvres avaient une part quelconque dans le salut, ils ne s'obtiendraient plus par la grâce de Dieu. On ne peut pas davantage trop insister sur le fait que, comme Jacques le déclare dans le présent passage, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est le verset qu'on a lu. La vraie foi qui transforme devrait non seulement produire, mais produire réellement de bonnes œuvres, notamment la repentance, la soumission, l'obéissance à la Seigneurie de Christ. C'est à l'expression de la nouvelle nature créée lors de la nouvelle naissance, l'obéissance et la repentance ne sont pas parfaites, mais les bonnes œuvres seront présentes. Il y a des changements, et je le dis souvent, ce qui m'a amené, moi, à accepter Jésus-Christ comme étant le seul chemin pour être sauvé, c'est la transformation dans la vie de mes parents. Mes parents sont convertis, j'avais 8 ans, et c'était pas une vie de tout repos qu'on menait à la maison. Quand papa était à la maison, nous nous cachions, mon frère et moi. Okay? Donc, c'était pas une vie de tout repos. Mais quand papa s'est converti à Jésus-Christ, il y a eu un volte-face, un changement radical. Est-ce que mon père était un homme parfait? Loin de là, pas plus que moi. Mais il y a eu des œuvres de la foi, des œuvres qu'on voyait de ce que le Saint-Esprit faisait dans sa vie. Ma mère s'est convertie un an après, car elle a vu la transformation que Jésus-Christ peut faire dans une vie. Donc, c'est ça qu'on appelle les œuvres de la foi. Donc, la foi sans les œuvres est morte. Si mon père dit « je vais à l'église le dimanche matin, on va écouter le pasteur Raymond Taylor » et qu'il n'y avait aucun changement dans sa vie, ça n'aurait pas marqué ma mère et ça n'aurait pas marqué aucun de ses enfants. Et j'aurais pas eu un autre petit frère à part de ça. OK, on a lu le passage. L'auditoire principal de Jacques, là, n'oublions pas que Jacques parle à des... À qui parle-t-il, Jacques? Premièrement, à des Juifs dans la dispersion. Jacques 1, verset 1. Aux frères... dans la dispersion. Mais il les appelle frères aussi. Alors donc, ils sont frères sur deux sens. Frères de sang, d'autres juifs, et frères dans la foi. Donc ça peut s'appliquer facilement à nous, qui sommes aussi des frères dans la foi, avec ceux qui étaient à l'église de Jérusalem, Jacques. Donc ça, c'est deux gros. Okay, sauvés par grâce, de vrais croyants. Est-ce qu'il n'y avait que de vrais croyants dans l'église de Jérusalem? Il n'y avoir que de vrais croyants. Mais comme dans l'église de Rosemont, comme dans l'église en général, dans les églises, les assemblées en général, il y a des chrétiens de nom qui disent « je suis sauvé par la foi » et à laquelle les œuvres ne sont pas rattachées. Et on va développer ça. Donc Jacques va nous présenter des moyens, des tests pour éprouver la foi. N'oublions pas que les Juifs sont habitués, ils sont sous la loi. Donc, ils pourraient présumer que cette nouvelle religion leur donne tout et n'exige rien. On est sauvé par la foi. Yes! Plus de loi, plus besoin de faire ci, plus besoin de faire ça, plus besoin, plus besoin, plus besoin. C'est par grâce. On présente souvent, ou on a présenté souvent l'évangile comme ça. Un évangile, un salut cheap. Vous connaissez le mot cheap? Pas cher. Cheap, hein? Malheureusement, le salut n'est pas cheap. Il y a un prix avec ça. Nous n'avons pas payé le prix du salut, c'est Christ qui l'a payé sur la croix. Mais il y a un prix à payer pour nous aussi. Et les Juifs devraient le savoir, car les vrais convertis de cœur ont payé dans ce temps-là, chèrement certains même, de leur vie. Il y a un prix. Alors, quelques tests. Verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire s'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? » Une confession dénuée de sens. Mes frères, juifs ou l'Église en général. Et il dit, il ne suffit pas de dire. Si juste dire, je viens de vous le dire tout à l'heure, s'il n'y a pas quelque chose raccroché à ça, ça marche pas. Je suis un immigrant, je suis arrivé en 1957 de France. Il ne suffit pas que je dise que le Canada est le plus beau pays et que je dise tout le temps « Je vais passer 2 mois en France cet été, et quand je vais être à la retraite, je vais retourner en France. » Ça clique pas ensemble. Si je dis que le Canada est le plus beau pays, je dis pas que la France n'est pas un beau pays, pas du tout. Mais le pays d'adoption que j'ai, c'est le Canada. Je dois connecter avec ce que je dis, ma pratique. Donc, je reste au Canada. Okay? Si je suis toujours en train de dire « Oui, mais en France, j'avais ci, en France, j'avais ça. Oui, mais en France, j'avais ci, oui, mais en France, j'avais ça. » Quoique Jacques est mentionné précédemment, il faut des œuvres, il les a mentionnées précédemment. On l'a vu dans chapitre 1, versets 3 et 12, il parle des œuvres de la patience. Verset 21, dans chapitre 1, la pureté. Verset, chapitre 1, verset 22-23, l'obéissance à l'Écriture. Et vous avez vu la semaine passée, l'impartialité. Déjà, il nous parle de fruits. J'ai pas été en chercher après, parce qu'on est rendu au chapitre 2, mais avant déjà, il parle des fruits. Sans œuvre, cette foi peut-elle sauver? La question sous-entend une réponse qui est non. C'est simple, il répond non lui-même. Ce n'est pas qu'une certaine quantité de bonnes œuvres ajoutées à la foi qui sauve, mais plutôt que la foi qui sauve produit inévitablement de bonnes œuvres. J'aimerais qu'on aille ensemble dans Galates chapitre 5, versets 22 à 25.
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit.
Alors, excellent verset dans Éphésiens 1, 13 et 14 qui nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Donc, à la conversion, au moment où on a entendu l'évangile, la bonne nouvelle, la vérité, on s'est tourné vers Christ et il nous a donné son esprit qui vient résider en nous, qui est un sceau de notre salut. Si j'ai le sceau de mon salut, j'ai les œuvres ou le fruit de l'esprit que Galates 5 mentionne. Et il en mentionne plusieurs. Si j'ai le fruit de l'esprit, je vais vivre selon l'esprit, je vais marcher selon l'esprit et je vais avoir les fruits de l'esprit dans ma vie. Est-ce que nous aurons 100% le fruit? C'est intéressant pour ça, c'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit. Donc on devrait avoir tout ça. Est-ce qu'on l'a demain? Paf! Le lendemain que j'ai accepté Christ dans ma vie? Si vous connaissez la recette comme ça, venez me voir, je voudrais la connaître. Non. Pourquoi? Pourquoi, Célestin?
C'est pas le pourquoi que je voulais donner, mais c'est plutôt la compréhension. C'est-à-dire la différence entre le fruit de l'esprit et les fruits de l'esprit dont vous avez parlé tout à l'heure. Parce que, selon moi, c'est-à-dire dès qu'on accepte Christ, on a le fruit de l'esprit qui est le don du Saint-Esprit. Et puis maintenant, les fruits de l'esprit, ça, c'est effectivement dans notre...
On a le Saint-Esprit en nous. La seule chose, c'est que le Saint-Esprit n'a pas tout le contrôle ou la place dans nos vies. Il doit se battre avec quoi? Notre nature charnelle, nos passions, hein, nos désirs. Hein? On se comprend. On connaît. Chacun de nous ici, on se connaît. On connaît où on est faible, où le Saint-Esprit doit nous tirer les oreilles plus souvent qu'ailleurs. Mais on a le fruit de l'Esprit, on a le Saint-Esprit. Donc, plus on va mûrir, plus on va prendre du temps, plus le Saint-Esprit doit prendre de la place, plus on va avoir la victoire sur tel ou tel ou tel péché. Donc, on doit faire mourir les péchés dans nos vies. Et même, on est comparé dans d'autres passages, on doit le mort n'a pas de tentation. Et nous sommes morts au péché. Qui de nous est 100% mort au péché? Correct. On comprend très bien. Mais il doit y avoir des changements. S'il n'y a pas de changement, il y a un problème. Est-ce que l'Esprit de Dieu réside en toi? Et c'est intéressant de voir ça. Jacques ne contredit pas Paul, mais au contraire, il est clair que le changement que l'Esprit fait dans une vie de foi, c'est ça qui manque. Okay, on a vu Éphésiens 2:8. On pourrait voir aussi Tite 2:7 qui nous dit qu'on doit être un modèle de bonnes œuvres. 2 Timothée 2:19, on doit s'éloigner du péché. Et j'aimerais qu'on lise Tite chapitre 1, versets 15 et 16.
Mais rien n'est plus haut pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles,
incapable
d'aucune bonne œuvre.
La description de celui qui se dit un chrétien, mais qui ne produit pas de bonnes œuvres, OK, ils font verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Est-ce que nous avons vu dans notre vie des chrétiens comme ça? Oui, j'en ai vu. Et c'est pour ça que quand on s'approche de la table du Seigneur, ils disent qu'on doit s'examiner soi-même. Qu'est-ce qu'on examine? Si je suis un pécheur, pas moi un examen pour ça. Je le sais. Est-ce que je confesse mes péchés à Dieu? Je lui demande pardon et je lui demande de me transformer, changer. Est-ce que le Seigneur peut faire des transformations? Il le fait. Et il le fait. Il l'a fait. Puis on va le voir après, il l'a fait avec un homme, Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham. Il a transformé Abraham. Est-ce que notre patriarche Abraham est un homme sans péché? C'est pas un enfant de cœur à des moments dans sa vie, hein? Est-ce que notre patriarche, un homme, un roi selon le cœur de Dieu qui s'appelait David, est un homme sans péché? Non, pas tout à fait, hein? Okay? Est-ce qu'une femme comme Rahab est une femme sans péché? Est-ce qu'un Moïse est un homme sans péché? On pourrait regarder un paquet d'hommes comme ça, venir plus proche de nous, si on veut, dans un certain sens. Est-ce que Pierre est un homme sans péché? Non! Jésus lui dit même, à un moment donné, « Hey, arrière de moi, Satan, tasse-toi, t'écoutes pas la bonne personne, etc., etc. » Et on voit des hommes et des femmes pécheurs, mais que Dieu transforme, et que de progrès en progrès. Notre vie, ta vie, ma vie, doit marcher de progrès en progrès. Est-ce qu'il va y avoir des hauts et des bas? Définitivement. Un graphique. Il y a des hauts et des bas. Mais c'est la moyenne qu'on fait pour voir si on est vers le haut ou vers le bas. Notre graphique, notre moyenne devrait être de mieux en mieux. Afin qu'il nous appelle, quand on va le rencontrer, bon et fidèle serviteur. D'autres exemples encore. Zachée est un bon exemple. Dans Luc chapitre 19, mais Zachée, quand Jésus le voit en haut de l'arbre, puis qu'il descend, viens en bas, j'ai à te parler, faut que j'aille dans ta maison. Qu'est-ce que Zachée dit? Oui, Jésus vient chez lui et Zachée lui parle. Même avant que Jésus dise quoi que ce soit, Zachée lui parle et lui dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rembourse 4 fois, etc., etc. On appelle ça des bonnes œuvres, OK? On voit qu'il est intéressé à Christ. Il a écouté son message, ça l'intéresse. Il voulait le voir, il est grimpé dans les arbres pour le voir, etc. Il y a déjà un changement dans sa vie, un changement des bonnes œuvres, un changement dans la vie de Zachée, OK? Le Saint-Esprit qui habite l'homme de foi produit des œuvres de justice, de repentance, de soumission, d'obéissance, d'amour envers Dieu, d'amour envers les autres croyants. Est-ce que c'est possible que nous, comme enfants de Dieu, nous ne soyons pas capables d'aimer un frère? Que nous, les enfants de Dieu, on ne soit pas capables d'aimer un frère ou une sœur? C'est sûr que c'est pas impossible. Ça devrait pas être ça. Mais écoute bien, si tu regardes ta propre vie, si je regarde ma vie, il y en a là, je les aime moins que les autres. On peut pas dire le contraire. J'ai dit, est-ce que c'est possible qu'on n'aime pas un frère? Oui, Célestin.
Le Seigneur, c'est pour cela qu'il nous exhorte à nous aimer les uns les autres, afin que le monde sache que nous lui appartenons. Donc, c'est-à-dire, la tendance est que, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait s'efforcer à nous aimer les uns les autres. Donc, c'est pour montrer qu'effectivement, il peut avoir cette
tâche. Effectivement.
Alors, maintenant, je me rappelle une situation avec une famille avec qui on était amis quand on avait des jeunes enfants. Et eux, ils avaient 7 enfants. OK, là, pas le double de ce qu'on avait, mais 7. Puis c'était toc, 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 en 7 ans. Et ils avaient leur petite fille, à un moment donné, 7 enfants, 6 gars, une fille. La maîtresse de cette petite fille-là, 3e année, elle avait en horreur tout ce qui était religion en général. Sachant très bien que c'était des chrétiens évangéliques, elle faisait la vie dure à la petite fille en 3e année. Alors, comme papa, on a 2 choix. On rencontre la maîtresse, on la passe au cash, hein? Je m'en vais y parler, moi. Est-ce que c'est un bon enseignant pour notre fille? Non. Au contraire, ils se sont mis ensemble, toute la famille, puis ils disent, on va prier pour Madame un tel, pour que le Seigneur nous donne de l'amour pour elle, hein? C'est la même chose dans le mariage, OK? C'est sûr, quand je fréquentais ma femme, et quand elle me fréquentait, j'étais le plus beau, était la plus belle, etc. Elle avait toutes les qualités. Quelques années après le mariage, elle a tous les défauts, et vice-versa. C'est là qu'on apprend que veut dire, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire dans le mariage. Il ne nous demande pas d'aimer notre époux ou notre épouse par un sentiment d'amour. Les sentiments, ça fluctue comme la bourse. Mais il nous demande de l'aimer, point. Et les deux corps. Ça, c'est l'amour véritable. L'amour est plus qu'un sentiment. Je ne dis pas que l'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour est plus qu'un sentiment. Car les sentiments fluctuent. L'amour, c'est une conviction, une décision, un acte de volonté. Quand on se regarde dans les yeux, on a des belles photos, nous autres, quand on s'est fiancés, etc. C'est cute. Je recommence demain matin, OK? Avec la même femme puis au même âge. Mais il y a certains jours, c'est moins cute. Quand on est en désaccord, qu'on a nos premières chicanes, c'est pas le même cute. C'est là que j'apprends à aimer ma femme, quand ça fait pas mon affaire. Et c'est ça que le Seigneur nous demande, à nous les maris, d'aimer notre épouse d'une manière inconditionnelle et sacrificielle. Autrement dit, quand ça fait mal, de faire un pas de plus, ou deux, ou trois, ou quatre. Hein? Donc, c'est ça l'amour. Bon, ça, c'est les fruits qui vont avec. Alors, une fausse compassion, versets 15 à 17. Alors, on retourne dans notre deuxième chapitre de Jacques. 15 à 17 nous dit, et je lis, « Si un frère ou une sœur sont nus, ils manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez, en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc, une fausse compassion, la foi véritable, a les œuvres qui vont avec. Ici, j'aime les frères dans l'Église, mais quand je sais qu'un frère est dans la détresse, il a un besoin, et que je vais lui donner une tape sur l'épaule, tu manques de nourriture, tu manques du nécessaire, et je lui mets ma main et je dis, je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que ça lui fait de bien, lui? Lui, là, pendant ce temps-là, on est en train de prier, j'ai ma main sur son épaule, je prie pour lui. Pendant ce temps-là, l'estomac, il fait, tu sais, il gargouille. Je n'aide pas du tout. Je manque de compassion. Et un passage qui m'a toujours moins ému, c'est quand Jésus regarde la foule, ça fait 3 jours que la foule le suit, et Jésus, le passage dit, Jésus fut ému de compassion pour la foule, car il voyait une foule sans berger. Et c'est là qu'il fait une des multiplications des pains. Intéressant. Jésus est ému de compassion. Moi, je dois être plein de compassion. Toi, comme enfant de Dieu, tu dois être plein de compassion. Quand il y a un besoin, ça me concerne, ça te concerne. Ça, ce sont les œuvres de la foi. Dans l'Église, ici, on a un fonds de secours. Il ne sert à personne d'autre que des gens dans l'Église, ici. À quoi sert-il? Quand il y a un besoin ponctuel. On le sait, il y a un besoin, on va aider. On a payé des épiceries, on a payé des loyers, on a payé des paiements, on a aidé financièrement, on a pourvu. On n'y a pas dit, ben, je vais prier que le Seigneur te donne une job. En attendant qu'il te donne une job, on va t'aider. C'est à ça que le fonds de secours donne, et ça nous concerne. Donc, oubliez pas, dans vos offrandes, là, ajoutez fonds de secours. Si tous les membres de l'Église donnaient 5 piastres par mois, là, on aurait 1 500 $ dans le fonds de secours par mois, à peu près. OK, donc, cette foi est une prétention vide de dire à quelqu'un, ben chauffe-toi, puis c'est vide. Aujourd'hui, on est touché aux larmes par un film, par une pièce de théâtre, par la télévision, sans manifester ni inquiétude, ni compassion pour un voisin, pour un frère dans le besoin. On est ému, moi ça me choque énormément, on est ému par les petits poussins, par les petits canards, par les petits animaux, n'importe quelle sorte d'animaux, mais on n'est pas ému par tous les gens qui meurent sans fin à grandeur du monde. Mais on est ému par les animaux. Et ça reste des animaux. J'ai rien contre. Je dis pas qu'on doit maganer les animaux. Hein. J'aime les animaux. OK, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans Acte 2, là, le début de l'Église, qu'est-ce que faisaient les chrétiens? Ils partageaient et ils mettaient tout en commun afin que chacun reçoive selon ses besoins. Pas en plus, mais selon ses besoins. D'ailleurs, Dieu donne un bon exemple dans le peuple d'Israël, qui a tourné en rond 40 ans dans le désert, là. Il a donné ses besoins. Ils n'ont manqué de rien. Alors, ses besoins, c'est pas d'avoir le char de l'année, la plus grosse maison à Westmount, c'est ses besoins, ce qu'on a besoin. Et quand on va dans les pays étrangers où ils sont beaucoup moins favorisés que nous le sommes, eux, ils savent ce que c'est que les besoins. Très heureux de manger un repas par jour, pas deux, un. Nous, on chiale quand il en manque un sur trois. Et on voit l'exemple du bon samaritain aussi, hein? Le samaritain prend vraiment soin de la personne qui est blessée. Il pourvoit immédiatement et il pourvoit plus tard. Il dit, je te rembourserai ce que tu auras dépensé pour prendre soin de lui. Donc, il en prend soin jusqu'à la fin. Versets 18 et 20. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et puis, on continuera un petit peu après. Une conviction superficielle. La foi offre une preuve concrète. La foi produit du bon fruit. C'est sa nature. Jésus met en garde, hein. Luc chapitre 6, on voit la parabole de la maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable. La maison construite sur le roc reste, la maison construite sur le sable tombe. Et il dit à la fin de ça, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, un enfant de Dieu qui a la foi obéit à son maître. Est-ce que c'est facile d'obéir? Non! Nous avons le cou raide à l'obéissance depuis Adam et Ève. Que ce soit Adam et Ève ou que ce soit nous autres, on est aussi rebelles à l'obéissance. Hein? On voit dans plusieurs versets l'exemple de Jésus, chapitre 13, il lave les pieds à ses disciples et il dit, c'est pour vous donner un exemple afin que vous pratiquiez aussi. Est-ce que ça veut dire que je dois laver les pieds à mon frère Richard Vaudrin? Non! Si c'est nécessaire, je vais le faire. On doit être au service les uns des autres. Dans 2 Pierre, chapitre 1, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la maîtrise de soi. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Si on parle de oisiveté, on parle de quelqu'un qui fait rien, qui est oisif. Quelque chose de stérile ne produit rien. Si dans ce cas-là, il parle que ça ne vous laissera pas oisif, donc vous allez être actif. Si vous ne serez pas stérile, donc vous allez produire quelque chose. Toujours en relation avec la foi. Dans 1 Jean 2, celui qui prétend être dans la lumière et qui hait son frère, du verbe haïr son frère, est encore dans les ténèbres, dans le noir. Exact. Donc, si tu haïs ton frère, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Si j'aime Dieu, je vais aimer mon frère. Et quand ce frère-là, ou sœur, est plus difficile à aimer que d'autres, ce qui peut arriver, on a des petits conflits des fois, hein? On a des petits désaccords. Et là, ce frère-là ou cette sœur-là est plus difficile à aimer d'autres. J'ai qu'à crier au Seigneur et donne-moi de l'amour pour lui. J'ai pas besoin d'amour pour celui-là. Lui, je l'aime. Mais lui, il m'empêche de dormir. J'en ai des cauchemars la nuit. Bon, j'exagère un peu peut-être, là. Mais Seigneur, je veux l'aimer parce que le Seigneur l'aime autant que moi. Il est mort autant pour lui que pour moi. Et il m'a ordonné de l'aimer. À cause que toi, tu l'as aimé, à cause que tu m'ordonnes de l'aimer, Seigneur, donne-moi de l'amour pour lui. Impressionnant, le Seigneur répond à nos prières. Et on va apprendre à aimer quelqu'un moins aimable. Et on va toucher sa vie, on va être un instrument dans sa vie. Une foi sans les preuves ou les œuvres est comparée dans ce passage-là à la foi de qui? Dans le passage qu'on vient de lire. Verset 19. Une foi sans les œuvres est comparée à la foi des démons, du diable. Est-ce que le diable croit en Dieu? Définitivement. Il doit même demander des permissions à Dieu. Dieu lui donne telle latitude et il peut pas aller plus loin que ça. Donc, il croit en Dieu. Est-ce que ça les sauve pour autant de la condamnation éternelle? Non. Donc, il tremble même devant Dieu. Nous devrions, nous comme enfants de Dieu, je devrais trembler un peu plus. Je pense que comme enfant de Dieu, un mot qu'on a oublié dans notre langage, c'est la crainte. Alors nous avons la crainte de Dieu respectueuse, c'est correct, c'est excellent même. Mais la crainte de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 11, à cause d'une mauvaise attitude des enfants de Dieu face à la table du Seigneur, ils ont manque de respect, un manque de respect envers Dieu, un grand nombre sont malades et quelques-uns sont morts. Attention, Dieu n'y est pas que le poc. Nous allons devoir rendre des comptes si nous marchons tout croche. La crainte de Dieu. On le voit dans la parole de Dieu. Même dans les actes, on voit ça d'une manière pratique. Ananias et Saphira mentent à Dieu, mentent au Saint-Esprit, ils meurent sur le champ. Bang! Seigneur lui dit, viens me voir, j'ai à te parler. Pas perdu leur salut, pas ça du tout qui est question là. Leurs œuvres étaient mauvaises, ou leur œuvre dans ce cas-là était mauvaise. OK, Abraham, la foi vivante d'Abraham et de Rahab. Abraham, patriarche et père des Hébreux, révéré, aimé du peuple hébreu, et Rahab, prostituée d'entre les païens. Abraham, alors on va lire verset 21 jusqu'à la fin. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Abraham, justifié par la foi. C'est marqué dans Hébreux 11. C'est par la foi que Abraham, etc. Et là, il parle qu'Abraham fut justifié par les œuvres. Dans Genèse, on lit qu'il est justifié par la foi. Dans Hébreux 11, on lit qu'Abraham a été justifié par la foi. Et Jacques nous dit qu'il a été justifié par les œuvres. Deux mots justifiés différents. Un par la foi, l'autre par les œuvres. Intéressant de voir. Alors moi, je ne lis pas le tel, le grec, tout ça, là. Mais quand même, M. MacArthur dit comme quoi que ce mot-là peut être utilisé dans deux situations différentes. Première situation, il se rapporte à l'acquittement qui déclare que quelqu'un est juste. Mais il peut aussi se rapporter à la preuve de la justice. Exemple, un meurtrier ne peut être gracié ici au Canada que par le gouverneur général du Canada. C'est le seul qui a le pouvoir de déclarer quelqu'un criminel, le sortir de la prison et lui dire « Pardonnez, tu peux sortir ». Quand le gouverneur général vient le voir et lui dit « Monsieur Intel ou Madame Intel, tu es pardonné, tu peux sortir de prison », il vient d'être déclaré juste. Lorsqu'il sort de prison et qu'il est dans la rue, là, les œuvres montrent qu'il est juste. Tant qu'il est dans la prison, t'as bien beau lui dire qu'il est déclaré juste, qu'il est pardonné, mais il est encore en prison. Lorsqu'il sortira de la prison, les œuvres, les actions montrent qu'il est déclaré juste. Ça va ensemble. Et c'est la même chose pour Abraham. Abraham est l'enfant de la promesse Isaac. Dieu lui demande de sacrifier son fils. Écoutez, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, vous avez des enfants et des petits-enfants. Je n'aurais pas voulu être dans la peau d'Abraham. Il savait clairement ce que Dieu lui demandait. Et il part avec l'enfant, qui ne devait pas être tout petit dans ce temps-là. Hein. On parle de pas trop, mais c'est 18-20 ans dans ce coin-là. Et on lui pose des questions. On lui dit, mais où est le sacrifice? Quelle est la réponse d'Abraham? Dieu pourvoira. Et même quand il arrive un peu plus loin, je vais lire exactement, il dit, Genèse 22-5, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Que démontrait Abraham? Il était certain que d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive, il reviendrait avec son fils. Pourquoi Dieu allait pourvoir? C'était le fils de la promesse. Dieu avait dit à Abraham et Sarah, « Je ferai de toi un peuple nombreux comme les étoiles du ciel, le sable de la mer, en Isaac. » Et là, Dieu prendrait Isaac. Ça ne fit pas. Il avait confiance. Dieu ne se contredit pas. Dieu accomplit ses promesses. Il ne fait pas comme moi à oublier mes promesses. Dieu n'oublie pas ses promesses. Donc, il avait confiance, il avait foi en Dieu. Quoi qu'il arrive, il reviendrait avec le fils de la promesse. Est-ce que nous avons cette foi-là? Et c'est pour ça que les œuvres d'Abraham sont importantes. Et c'est pareil dans nous. Est-ce que Dieu a dit qu'il prendrait soin de nous? Est-ce qu'il a dit qu'il s'occuperait de nous? Est-ce qu'il a dit qu'on ne manquerait rien? Est-ce qu'il a dit de ne pas se faire du souci de ce que nous allons manger ou boire? Il dit, moi, je prends soin des oiseaux, moi, prendre soin de toi. Pourtant, dans notre société nord-américaine, quel est le plus grand souci des gens? Le matériel, leur retraite. Comment je vais faire pour y arriver à la retraite? Pourtant, est-ce que Dieu va arrêter le jour de tes 65 ans de prendre soin de toi? Il va prendre soin de toi toute ta vie, puis à 65 ans, il tombe en chômage? Non. Alors, mettons en action. Dieu va prendre soin de nous. Est-ce que ça veut dire qu'on va habiter dans une grosse maison, un château? Non. On aura ce qui est nécessaire. Dieu prend soin de nous. Faisons nôtres les promesses que Dieu a faites dans toute la parole de Dieu, Abraham est un bon exemple. Et le sacrifice de son fils Isaac démontre sa foi. Est-ce que Dieu a pourvu au sacrifice? Il a retenu la main d'Abraham et il y avait un bouc de poignée dans les buissons. Dieu pourvoit au sacrifice. Je ne doute pas que ça a dû être dur pour Abraham. Abraham n'est pas un homme parfait, ni dans sa foi, ni dans ses œuvres. Rahab, une foi nouvelle. Rahab s'est convertie d'une drôle de manière. Elle a entendu parler du peuple d'Israël, c'est sûr. Elle a entendu parler du Dieu du peuple d'Israël. Elle a dû avoir la chienne. Elle a dû avoir peur. Puis elle a dit, ce Dieu-là est pas mal meilleur que mon Dieu. Et on voit une femme qui se convertit au Dieu du peuple d'Israël, au point que quand les espions arrivent, elle les cache au risque de sa vie. Et au risque de leur vie, les espions, eux, prennent soin de Rahab aussi. Les œuvres de la foi des espions, quoique les espions, ils auraient pu être un peu meilleurs espions dans le temps, en tout cas, mais eux autres aussi. Et c'était pas une femme de bonne vie. Que faisait le peuple d'Israël avec les prostituées? Ils étaient lapidés, hommes ou femmes. Généralement, c'est des femmes, mais hommes ou femmes. Lapidés. Elle n'est pas lapidée, ils en prennent soin, et elle devient une des ancêtres de David, une des ancêtres de Jésus. La foi. Conclusion. Calvin a dit, et ça vous pouvez le noter, j'ai trouvé ça super, « Seule la foi justifie, mais la foi qui justifie n'est jamais seule. » J'ai trouvé ça super bien. « Seule la foi justifie, mais la foi qui justifie n'est jamais seule. » C'est une bonne manière de juste tout synthétiser le salut par la foi pour de bonnes œuvres. « Seule la foi justifie, mais la foi qui justifie n'est jamais seule. » Qu'est-ce qu'on tire comme leçon? Est-ce que Jésus-Christ a fait des changements dans ma vie le jour où je lui ai donné tous mes péchés? Est-ce qu'il y a des œuvres dignes de la repentance dans ma vie? Est-ce que le Saint-Esprit fait des changements dans ma vie? Est-ce que ceux qui sont autour de moi disent « Oui, lui ou elle, il est différent depuis X temps. » Est-ce que mon épouse peut dire « Mon mari est un meilleur mari depuis qu'il a accepté Christ. » Est-ce que mon époux peut dire « Mon épouse est une meilleure épouse depuis qu'elle a accepté Christ. » Est-ce que moi, depuis que j'ai accepté Christ, vu qu'on parle du foyer, j'ai appris à aimer ma femme sans condition? Wow! Messieurs, je répète. Est-ce que j'ai appris à aimer ma femme sans condition? Mesdames, est-ce que j'ai appris à respecter mon mari, à lui laisser le leadership du foyer sans condition? Pas moi qui le dis. Moi, je peux me permettre de le dire. Je le dis comme ça parce que c'est le Seigneur qui nous le dit. Et tout ce que le Seigneur nous demande est bon pour nous. Et le but de tout cela, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure quand on parlait de l'amour des frères, ceux du dehors vont glorifier Dieu à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Et cet amour ne commence pas dans l'église, il commence à la maison. Nos enfants nous connaissent intimement. Quand on veut connaître comment va un couple, on va chez eux et on rencontre les enfants. Les enfants sont transparents et eux voient les parents. Et ils vont vouloir avoir l'amour des parents, la tendresse des parents. Généralement. Important de ça. Soyons des hommes et des femmes qui ne sont pas seulement justifiés par la foi, mais par une foi qui n'est jamais seule. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es patient avec nous, tu es bon. Merci pour ton esprit qui vit en nous. Merci parce que sans ton esprit qui vit en nous, nous serions incapables de quoi que ce soit. Tu l'as bien dit aux disciples d'attendre le Consolateur. Merci Seigneur. Fais des changements dans nos vies afin que tu sois glorifié, que ceux qui sont autour de nous, Seigneur, le voient, Seigneur, et te glorifient et puissent vouloir plonger leur regard dans un salut excellent. Au nom de Jésus. Amen.